20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bienvenue au Grand Théâtre de Provence pour ce journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci au public présent. Voilà, vous les entendez. Vous le savez, le journal du classique est enregistré chaque jour pendant le festival en public et vous êtes évidemment les bienvenus si vous êtes à Aix ou dans la région. Et puis merci à notre invité Francesco Piemontesi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous donnerez un récital demain à 20h30, juste en face du Grand Théâtre, au Conservatoire d'Arius Millau. C'est l'une des autres salles où se déroulent les concerts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, au programme deux sonates de Beethoven, la numéro 21 qui est plus connue sous le nom de Waldstein, et puis la sonate numéro 30. Et vous jouerez également le livre 2 en seconde partie, le livre 2 des préludes de Claude Debussy. Alors avant de parler de ce programme, on peut dire, on va évoquer votre lien avec le Festival de Pâques, on peut dire que vous êtes un habitué, hein, parce que c'est la quatrième fois que vous venez, et vous étiez même là à la création, enfin l'année 2013, la première édition, c'était une carte blanche à Renaud Capuçon, vous y participiez. Apparemment, vous vous plaisez ici à Aix-en-Provence et puis au Festival de Pâques, oui.
Absolument. Et le festival est magnifique et la ville aussi. D'ailleurs, chaque été, je viens pendant une semaine à me reposer, à faire un peu de la balade, à aller à la mer. Mais j'aime beaucoup cette région. Vraiment. Ouais. J'ai quand même.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette
La nature, le fait qu'on peut se relaxer, justement. On peut bien manger, ce qui est très important. Mais on peut aussi avoir beaucoup de culture aussi pendant l'été, pendant le festival. Festival qui était plus un festival plutôt lyrique, donc on peut tout avoir pendant une journée et c'est assez rare quand même.
Vous parliez de nature, j'ai l'impression que c'est important pour vous l'environnement.
Complètement. En fait, ouais. J'ai grandi au Tessin, une autre région qui est très très belle aussi.
En Suisse.
Donc j'ai passé mon enfance entre le piano, mes livres et le sport et la nature. Mmh. Donc c'était quand même, ça a toujours été quelque chose de très très important pour moi.
On reviendra aussi sur vos origines, parce que effectivement vous êtes né dans le canton du Tessin et vous dites souvent qu'avec mon nom on me présente, on pense que je suis italien. Or en fait je viens de la plus belle région de Suisse. Voilà.
Pas exactement comme on se disait avant, jusqu'à Napoléon c'était l'Italie.
Absolument.
Et j'ai quand même une partie de la famille qui vient d'Italie, donc j'ai des origines italiennes, tout en étant suisse.
Bon, Francesco Piemontesi, c'est votre premier récital, hein, ici, il y avait eu cette carte blanche, puis après vous avez joué avec l'Orchestre Européen des Jeunes dirigé par Vladimir Ashkenazi en 2015, vous avez joué à ce moment-là le concerto numéro 4 de Beethoven, et puis ensuite avec l'Orchestre National de France en 2018, sous la direction d'Emmanuel Krivine. Vous aviez joué les variations symphoniques de César Franck et puis la burlesque de Richard Strauss. Alors pourquoi maintenant un récital? C'est l'autre facette de votre activité pianistique.
Bah justement, on en a parlé avec Renaud Capuçon. Je suis en contact avec lui régulièrement. D'ailleurs, on joue ensemble aussi. Et donc, on se connaît très bien. On est amis depuis longtemps. Et on a pensé justement, le récital, c'était la seule chose qui me manquait ici. Et pour un public aussi d'habitués, parce qu'il y a des personnes qui reviennent à chaque année, on a pensé justement de proposer quelque chose qui était justement notre facette, et aussi un répertoire que j'avais pas joué, parce qu'une fois j'avais joué Beethoven, puis Strauss, Franck, la musique de chambre, il y avait beaucoup du XXe siècle, mais qui n'était pas Debussy. Et donc on avait pensé justement à deux compositeurs qui sont très présents dans mon activité de pianiste, donc Beethoven et Debussy. Et donc pour avoir quand même une espèce de voyage complet pour le public qui est revenu depuis de nombreuses années.
Voilà. C'est un voyage à travers deux époques, effectivement, à travers ces deux compositeurs.
Absolument.
Ouais.
C'est deux compositeurs et deux époques qui sont très importants pour moi.
C'est-à-dire
qu'on a un répertoire pianistique qui est immense. On a vraiment la chance de pouvoir choisir entre la musique de la Renaissance et même s'il s'agit de transcription, jusqu'à la musique qui a été écrite avant-hier en fait. Et donc il faut faire une sélection, ça c'est sûr. Et pour moi la sélection, ça se fait avec des œuvres et des compositeurs où j'ai vraiment envie à chaque fois, à chaque jour d'y retourner. Et à la fois Beethoven et Debussy, c'est toujours le cas, et ses œuvres en particulier. Donc, par exemple, les préludes de Debussy, j'ai eu une phase autour de 2010 où je les ai beaucoup joués. Je les ai enregistrés.
Il y a dix ans.
Puis je les ai laissés à côté. Et maintenant, je les reprends. Et c'est à chaque fois tellement beau parce que j'ai cette chance de revenir et d'avoir des nouvelles images, des nouvelles idées que j'ai à propos de ces œuvres. Pas parce que j'ai envie de chercher différentes choses, mais moi, je suis plus le même pianiste, la même personne qu'il y a 15 ans. Donc, par la force des choses, j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres idées, et c'est beau à voir. Hein. C'est comme quand on regarde une photographie, on est plus soi-même, on change.
Alors justement, on va vous écouter dans ces préludes de Debussy, il y a 10 ans, le livre 2 que vous allez jouer ce soir. Et puis après, vous nous expliquerez finalement quelle est votre nouvelle vision finalement de cet ouvrage que vous allez jouer ce soir. On va écouter Les Fées sont d'exquises danseuses.
Thank you.
Claude Debussy sur Radio Classique, le livre 2 des préludes, les fées sont d'exquises danseuses, interprétées par Francesco Piemontesi, qui est ce soir l'invité du Journal du Classique depuis le Grand Théâtre de Provence, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et vous jouerez Francesco Piemontesi ce soir, demain, plutôt ce sera demain jeudi, faut pas se tromper dans la date, à 20h30 au Conservatoire Darius Milhaud, vous jouerez ce livre 2 des préludes. L'enregistrement qu'on vient d'écouter a été fait il y a 10 ans, presque jour pour jour, c'était mars-avril 2014, à Lugano, en Suisse, on y revient. Est-ce que pour préparer le récital de demain, vous avez réécouté cet enregistrement ?
Pas vraiment, parce que, comme je vous disais, je pense que j'ai quand même changé, et surtout, ce qui concerne la sonorité, j'ai eu la chance, vous l'avez évoqué avant, de jouer avec des grands chefs comme par exemple Ashkenazi, Krivine, mais bien d'autres, Skrovacheski, Blomstedt, et comme ça. Et donc, j'étais tout le temps en contact avec l'orchestre. Presque chaque semaine. Et donc, à un certain moment, j'ai commencé à penser à la sonorité du piano comme si c'était une réduction de la sonorité orchestrale. Donc, je me rappelle une fois, dans une répétition avec Blomstedt, il me disait, mais ça doit sonner plutôt comme une clarinette, ici j'ai pas la couleur. Au début, c'était quand même choquant, parce que on se disait, on est avec un autre instrument, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à comprendre comment faire ce travail. Et donc, c'est sûr qu'à la fin, le public entendra du piano. Mais je pense que ça se traduit, tout ça, cette recherche que j'ai, cette écoute orchestrale que j'ai, ça se traduit par une plus grande richesse de couleurs dans la sonorité. Donc quand j'écoute, je me dis, je pense qu'aujourd'hui je pourrais faire beaucoup plus de couleurs et d'avoir une certaine liberté qui vient justement à cause de cette pensée orchestrale.
La musique concertante a nourri finalement votre interprétation de récitaliste.
Ouais. Beaucoup.
Ouais, beaucoup.
Beaucoup. Ouais. La musique de chambre
aussi,
pour le partage, pour l'écoute, et la musique orchestrale justement pour les couleurs. Donc c'est un peu la beauté d'une carrière, non? On peut avoir carrière de pianiste, on peut jouer seul, on peut jouer avec des orchestres, faire de la musique de chambre, et on apprend toujours quelque chose.
On a plus de liberté aussi, j'imagine, quand on est seul face à son piano, non? Oui.
Oui.
Ouais.
Oui, parce
plus
qu'on
a responsabilité aussi.
Responsabilité, mais liberté aussi, parce qu'on n'a pas le rythme orchestral. On peut faire un rubato qu'on pourrait pas se permettre à l'orchestre, parce qu'il faudrait une dizaine de répétitions pour avoir 80 musiciens qui font la même chose.
Sauf si le chef vous suit parfaitement, ça
ouais,
arrive.
Ouais, ouais. Bien sûr.
Dans le livret de cet enregistrement des préludes de Claude Debussy, vous expliquez que votre professeur, Cécile Housset, qui vient, paraît-il, ce que vous me disiez tout à l'heure, elle sera là au concert de demain, non?
Exactement, parce qu'elle habite maintenant à Montpellier. Donc,
ouais, c'est pas très loin. Ouais. Alors, est-ce que c'est touchant? Est-ce que c'est stressant de la voir dans... Réconfortant, je sais pas.
Je dirais plutôt touchant, parce que de toute façon, elle aura toujours quelque chose à dire, et c'est très bien. Même quand elle écoute les enregistrements radio, parfois je reçois des emails après avec...
Regardez votre portable, si ça se trouve, vous allez avoir un texto.
Voilà exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais d'ailleurs, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'on est toujours en contact et on a toujours... En plus, c'est toujours avec beaucoup de respect. Si elle me dit, par exemple, ce tempo-là, moi, j'aurais fait différemment, je sais que c'est avec une pensée d'un grand respect derrière, et ça me fait plaisir. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai vraiment appris à jouer le piano, parce que je l'ai connue quand j'avais 14 ans. J'avais, je pense, beaucoup de choses à dire à l'instrument, mais je ne savais pas comment les sortir, parce que j'étais vraiment très crispé. Et je suis allé la voir, et elle a été tellement clair avec moi. Elle m'a dit, il y aura deux choses à faire. Il y a deux possibilités. Ou bien tu continues à jouer comme ça, et ça se termine là. Ou bien on arrête le piano pendant 6 mois, on fait que des exercices de technique. Après, on fait de l'application de la technique au répertoire. Après, je viendrai dans des salles de concert pour te donner des conseils pour l'acoustique. Et quand tu seras prêt, je te donnerai un agent. Et elle a fait ça point par point. Donc, je serai sûrement pas là ce soir sans Cécile Housset.
Sans elle. C'était la bonne recette, la bonne méthode.
Exactement. Et alors, c'est rare aussi. Hein,
oui, c'est vrai. De trouver, c'est important, ça, le professeur pour.
Complètement, parce que c'est plus que quand on va à l'université, on a, je sais pas, des professeurs comme ça, mais apprendre un instrument, c'est tellement, c'est même très corporel, en fait, apprendre à jouer. Donc, il faut avoir du temps, il faut avoir du temps avec une personne ou des personnes. L'autre grand en fait professeur que j'ai eu, c'était Alfred Brendel, et avec lui aussi j'ai eu énormément de temps.
Quel professeur aussi, oui.
Exactement. Ouais, ouais. On peut pas tout apprendre en quelques heures.
Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore des partitions justement que vous découvrez, que vous allez jouer, que vous n'avez jamais interprétées?
Par exemple, le troisième concerto de Rachmaninoff, ouais, que je vais jouer là pour la première fois l'année prochaine.
Alors comment ça se passe? Est-ce que vous allez voir votre professeur? Est-ce que vous voyez la partition avec elle ou pas du tout? C'est un travail.
Ça dépend. Dans le cas du troisième concerto de Rachmaninoff, je vais sûrement voir l'hiver prochain Cécile, parce qu'elle a beaucoup joué d'ailleurs. Elle a enregistré avec l'Orchestre Philharmonia de Londres et c'est un enregistrement magnifique. Donc je vais quand même passer 2-3 jours à Montpellier à voir des détails comme ça.
Travailler avec elle. Ouais. Je reviens à Cécile Houchet, enfin, qu'on n'a pas vraiment quitté dans notre discussion, parce que elle vous a prêté, lorsque vous avez enregistré, enfin du moins elle avait elle-même une partition qui avait appartenu à un élève de Claude Debussy, Marcel Campi, et partition sur laquelle apparemment il y avait des annotations de Claude Debussy, de la main de Debussy, c'est ça?
Oui, ouais. Pas beaucoup, mais quand même quelques annotations de tempi, de caractère, et c'était très inspirant, parce qu'on se sent en fait... On se sent partie de l'histoire. On a quelque chose dans les mains avec une écriture qui a été faite sur la même partition par Debussy lui-même. Et pour elle, c'était très important parce que Campi, c'était quand même justement la personne qui avait une connexion directe avec Debussy. Et donc, elle lui a transmis cette connexion directement. Et donc, je me sens bien sûr dans une certaine ligne. Après, c'est sûr que quand on va sur scène, c'était elle à l'époque ou c'est moi maintenant qui a ma propre voix. Et on va faire les choses dans une certaine façon parce qu'on est sûr à ce moment-là que c'est la façon de faire les choses. Mais avoir cet horizon, cette espèce de connexion avec l'histoire, c'est quand même très touchant.
Une filiation finalement, un héritage aussi peut-être.
Oui. Ouais.
On va vous écouter Ravel cette fois, donc la musique concertante, puisque c'est le concerto pour piano en sol, le final, avec l'orchestre de la Suisse romande. Bah, décidément, on quitte pas la Suisse, et c'est Jonathan Nott qui dirige. Thank you. le journal du classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec notre invité Francesco Piemontesi que l'on vient d'écouter ici dans le final du concerto pour piano en sol de Ravel avec l'orchestre de la Suisse romande placé sous la direction de Jonathan Nott. Francesco Piemontesi, demain vous donnerez un récital au conservatoire Darius Milhaud. Il y aura Debussy, le livre 2 des préludes et puis deux sonates de Beethoven. On vous a entendu tout à l'heure justement dans Debussy, Ravel. De quel des deux compositeurs êtes-vous le plus proche ? Duquel, du moins ?
Debussy.
Debussy, oui, pourquoi ?
Je pense que je suis engagé dans toutes sortes de réflexions tout de suite. Ravel, c'est toujours des images d'une beauté extraordinaire que je regarde avec une certaine distance. Et je crois que d'ailleurs qu'il faut, parce que ça reste quand même une musique qui a besoin d'une certaine distance dans l'écoute et dans l'interprétation aussi. Debussy, je suis tout de suite engagé dans toutes sortes de fantaisies, de réflexions, d'émotions. Donc c'est plus immédiat, je dirais.
Et pourtant, vous dites que Debussy, les préludes en particulier, c'est techniquement exigeant, c'est vrai ?
Beaucoup, oui. Ouais. C'est pas peut-être une technique virtuose, précision, vitesse, comme ça, c'est plutôt justement une technique du son, une technique de l'expression, une technique de l'usage de la pédale, qui est très très difficile. Donc c'est une technique dans le sens du mot un peu plus vaste.
Ça va au-delà de la seule technique. On n'a pas encore parlé de Beethoven, de ces deux sonates. La sonate numéro 21, qui est plus connue sous le nom de Waldstein, parce que c'était le premier mécène de Beethoven quand il était à Bonn, et qui a incité justement Beethoven à aller à Vienne pour se faire connaître et puis pour parfaire son enseignement et pouvoir composer. Chaque sonate de Beethoven marque une certaine évolution. On dit toujours que c'est un terrain d'exploration, qu'à chaque fois il repousse les limites à la fois de l'instrument, et c'est vrai quand il écrit cette sonate, il a un nouveau piano, les limites de l'instrument, mais aussi les limites, paraît-il, de l'interprète. Est-ce que ça, vous le ressentez véritablement ?
À chaque fois, on sent chez Beethoven cette volonté de se dépasser à chaque composition. On le voit dans les sonates et on le voit aussi dans les concertos. Et c'est très beau parce que ça veut dire à chaque fois, il faut quand même avoir à faire avec cet aspect musical ou bien même technique qui dépasse justement l'écriture qui était là d'avant. Et pour cette sonate, c'est clair que le nouveau instrument, c'était très important pour lui. Il voulait faire sortir toutes sortes d'effets de la pédale justement, mais aussi faire glisser les mains sur les touches à la fin de la sonate. Ça c'est vraiment inouï, hein. Donc c'est quand même un Beethoven qui était encore, je pense, en pleine il avait encore en pleine possession de ses forces en tant qu'interprète. Il avait vraiment envie de partager sa technique virtuose avec un public. C'est vrai que l'autre sonate que je joue, l'opus 9, elle est beaucoup moins virtuose, elle est beaucoup plus pensée dans l'intimité. C'est plus le Beethoven virtuose qui a envie qui a peut-être besoin aussi d'épater un public. C'est une sonate qui est beaucoup plus réduite. Un peu comme le dernier Mozart, d'ailleurs, on a la même évolution. Par contre, cette réduction, elle est quand même d'une force énorme du point de vue de l'expression. Donc il y a moins de notes, mais c'est quand même très très concentré.
Vous disiez à propos de la sonate numéro 21 que Beethoven cherche à se dépasser. Est-ce que vous aussi, vous êtes obligé finalement de vous dépasser dans l'interprétation, d'aller au-delà ?
À chaque fois.
Ouais.
Et ça commence par le fait de se mettre en question tout le temps. Donc ce que j'ai fait hier, est-ce que c'était ce que j'ai envie de faire demain? Et est-ce que c'était bien? Est-ce que je pourrais faire... Je dirais pas mieux, mais est-ce que je pourrais faire... Est-ce que j'ai peut-être d'autres aspects que j'ai envie d'explorer et qui n'étaient pas là hier? Voilà, à chaque fois. Et donc c'est un travail infini, ce qui rend la vie que je fais d'une telle beauté. Je suis tellement reconnaissant que je peux faire ça dans ma vie, passer justement à m'interroger sur les... avoir des conversations avec les plus grands chefs-d'œuvre du passé et du présent.
Et c'est un renouvellement permanent, finalement.
Complètement.
C'est une évolution permanente. Ouais.
Oui, je pense que si c'était une histoire de répéter à chaque fois la même interprétation, je ne pourrais pas le faire.
On vous parlait tout à l'heure de votre autre professeur, donc c'est Cécile Bousset, qui sera là demain. Il y a Alfred Brendel également, vous l'avez signalé. Et vous disiez que lui, c'était plutôt... Vous le voyez, vous continuez à le voir, c'est ça hein,
Oui, pas souvent, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de concerts, vous savez.
Vous travaillez quand même une centaine de fois par an,
et donc c'est presque impossible, mais peut-être une fois, deux fois par an.
Ce qui est pas mal déjà, ouais.
Oui,
ouais.
Je vais à Londres ou à Milan, là c'est un peu les deux résidences qu'il a, et quand j'ai, je sais pas, une nouvelle sonate, un nouveau concerto, surtout dans le répertoire où il était vraiment très très connu, et je lui joue ça, et à chaque fois on a des discussions, voilà.
Mais ça doit être passionnant, ça.
Absolument, non, ouais, absolument. Ouais. Et parfois, après, je sors et je me dis, j'ai tout essayé, ok, et quand même, je vais dans une autre direction. Je suis pas d'accord, pas parce que je respecte pas, j'ai un respect énorme pour lui et pour sa pensée, mais dans cette phase de ma vie, j'ai une autre vision d'un certain morceau, dont je suis tellement reconnaissant que je peux avoir un échange justement avec quelqu'un de cette portée sur des compositeurs, sur des œuvres, et après à la fin c'est moi qui décide si on va dans une direction dans une direction pareille ou bien si on change complètement.
Vous avez commencé le Francesco Piemontesi, le piano à 4 ans, c'est ça? Bon, j'imagine ce sont vos parents qui vous ont proposé cet instrument ou pas du tout?
Pas du tout.
C'est vous?
Non, pas du tout. On avait un petit piano à la maison, et apparemment je passais mes journées à pianoter, et voilà. Et donc à un certain moment, mes parents ont quand même pensé qu'un professeur de piano serait utile, et voilà. Et donc là, la question ne s'est jamais posée dans ma vie. C'était, je sais pas.
Vous n'avez jamais été tenté par un autre instrument, non?
Non,
c'était le piano. Oui. Il y a beaucoup de. On en parlait hier avec notre invité qui était Marc Minkowski. On parlait justement des instrumentistes qui deviennent chefs d'orchestre, et on constatait qu'il y a beaucoup de pianistes. Est-ce que la direction d'orchestre vous a tenté un jour ou pas?
Pas vraiment, dans le sens que avec un orchestre, on a pas seulement des questions liées à la musique à faire. Parfois, c'est un peu des questions liées plutôt à la communication. Et parfois, quand je vois les chefs lutter contre un orchestre parce que il y a des problèmes qui sont plutôt liés à l'école maternelle qu'à faire de la musique, ça c'est pas trop mon truc. Bon. Par contre, ce que j'ai fait, c'est de faire du play conduct. Donc de jouer et diriger en même temps des concertis de Mozart. Donc je fais pas le peintre dans l'air, je fais pas des gestes comme ça. Par contre, je répète très bien avec les orchestres et on fait de la musique ensemble. Et j'ai fait ça par exemple avec des orchestres qui sont spécialisés dans ça, la Kammerphilharmonie de Brême. Mais récemment, j'ai fait ça aussi avec l'Orchestre symphonique de Pittsburgh. Et donc c'était un partage extraordinaire. Par contre, j'ai pas d'ambition, de rêve de me mettre à diriger la 8e de Mahler.
Bon.
Ça, c'est pas dans les plans du futur.
C'est pas dans les plans du futur. Bon. Nous sommes déjà arrivés au terme de ce journal du classique. Merci Francesco Piemontesi d'être venu ici. Demain soir, donc, récital à 20h30 au conservatoire Darius Milhaud dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Beethoven, sonate numéro 21 et numéro 30, et puis le livre 2 des préludes de Claude Debussy. Merci au public du hall du Grand Théâtre de Provence. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation. Prochain enregistrement du Journal du Classique, ce sera demain. Alors attention, horaire exceptionnel, 16h. Et notre invité sera le chef d'orchestre Thierry Weber pour le spectacle pour enfants, Symphonie pour petites oreilles, que lui a commandé le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Votre soirée se poursuit en compagnie de Francis Drezel pour les variations de Francis Drezel. Très belle soirée avec Radio Classique, et à demain.